Vous êtes bien à l'écoute de RFI, il est tout juste 11h à Paris.
Olivier Sherman.
La recherche de survivants dans les décombres en Birmanie et Thaïlande se poursuit après le terrible tremblement de terre qui a fait pour l'instant plus de 1600 morts. Les secours demandés par la junte au pouvoir arrivent au compte-gouttes en raison notamment de questions administratives, nous expliquera Pierre-Olivier. Le nouveau gouvernement en Syrie a été formé, mais sans Premier ministre, une seule femme au poste de ministre des Affaires sociales et du Travail. Il y a aussi un ministre druze, un autre kurde et un alaouite. Les fidèles du président syrien par intérim, Al-Shara, occupent les principaux postes. Notre correspondante à Damas, Manon Chaplin, reviendra en détail sur ce nouveau gouvernement. Aux États-Unis, le monsieur vaccin américain jette l'éponge. Le docteur Peter Marks était en profond désaccord avec le ministre de la Santé, Robert Kennedy Jr., qui représente selon lui un danger pour la santé publique dans la désinformation et les mensonges, nous dira depuis New York Karine Hauten. Enfin, Marine Le Pen sera fixée sur son sort demain dans le dossier des assistants parlementaires. La chef de file des députés RN ne croit pas que les juges iront jusqu'à prononcer une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire à son encontre. Marine Le Pen ne se sent pas fébrile. Explication à suivre de Valérie Gasse. Les premiers secours sont donc à pied d'œuvre en Birmanie et en Thaïlande pour rechercher des survivants deux jours après le violent séisme qui a fait pour l'instant plus de 1600 morts rien qu'en Birmanie. Les experts craignent que le bilan soit bien revu à la hausse. Les autorités birmanes ont déclaré l'état d'urgence dans les 6 régions les plus affectées. Le chef de la junte birmane a lancé un rare appel à l'aide internationale. Il invite tout pays, toute organisation à apporter son secours. Par le passé, les militaires étaient réticents à demander un tel soutien de l'État. Mais concrètement, rien ne semble fait pour simplifier les démarches pour que les secours internationaux puissent arriver sur place. Et il y a urgence. Pierre-Olivier.
En Allemagne, aux États-Unis, en Russie ou encore en France, des dizaines d'équipes de secouristes sont prêtes à venir en aide à la Birmanie. Problème, depuis 24 heures, Thierry Velu et ses hommes du groupe de secours catastrophe français attendent le feu vert des autorités birmanes.
Bien que l'aide internationale ait été demandée, nous on n'a pas eu les retours d'informations qu'on souhaitait. On n'a pas réussi à joindre les autorités, notamment l'ambassade à Paris est en plus fermée, que ça soit au niveau des visas, au niveau de l'entrée. On n'a aucune information là-dessus et qui prend en charge notre arrivée, qui nous accueillera. On n'a vraiment aucune information, étant donné que à l'heure actuelle, la demande de visa est toujours d'actualité pour se rendre là-bas, équipe de secours ou pas.
Pourtant, les besoins, comme après chaque séisme, sont énormes.
La première recherche de victimes et localisation de victimes en urgence. Il va y avoir des besoins en eau pour le traitement de l'eau, parce que ça doit être un facteur qui a à prendre rapidement en compte. Bien qu'on sache qu'il faut localiser le plus rapidement possible des victimes sous les décombres, on est totalement dans l'incertitude. C'est vraiment compliqué.
Le GSCF espère obtenir ses visas dans les heures qui viennent pour pouvoir acheminer une quinzaine d'hommes et du matériel de recherche et d'écoute.
Dans le pays voisin, la Thaïlande, le bilan s'est alourdi à 17 morts à Bangkok. 32 personnes ont été blessées et 83 sont portées disparues. La plupart ayant été ensevelies par l'effondrement d'une tour de 30 étages en construction dans un quartier de la capitale thaïlandaise. Une frappe aérienne israélienne sur une maison et une tente abritant des personnes déplacées a tué au moins 8 personnes, dont 5 enfants, dans le sud de la bande de Gaza. C'est ce qu'indique la défense civile palestinienne. Une nouvelle frappe qui intervient au moment où les médiateurs, Égypte, Qatar et États-Unis, poursuivent leurs efforts pour rétablir un cessez-le-feu et obtenir la libération des otages israéliens toujours détenus à Gaza. Et au moment où un haut responsable du Hamas a déclaré hier que le groupe avait approuvé une nouvelle proposition de cessez-le-feu présentée justement par ses médiateurs. L'État hébreu a confirmé la réception de la proposition et a déclaré qu'Israël avait soumis une contre-proposition en réponse. Les détails de ces efforts de médiation restent confidentiels. Et c'est dans ce contexte que ce matin, l'armée israélienne a intercepté un missile tiré depuis le Yémen. Après avoir déclenché des sirènes d'alerte aérienne dans plusieurs régions du pays, depuis des mois, les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont mené des dizaines d'attaques de missiles contre Israël et en mer Rouge. En Syrie, les autorités ont annoncé hier soir la composition de leur nouveau gouvernement. L'annonce était attendue depuis près d'un mois en Syrie. Le président par intérim, Ahmed Al-Shara, a affirmé sa volonté d'édifier un État fort et stable. Manon Chaplin, vous êtes notre correspondante en Syrie. Parmi ces nouveaux ministres, de nombreux fidèles d'Ayat Tahrir al-Sham, dont est issu le nouveau pouvoir de Damas.
et quelques ministres chargés de la gestion des affaires courantes depuis la chute de Bachar al-Assad qui restent en poste. Celui des affaires étrangères, Assad al-Shibani, le ministre de la Défense, ancien cadre de HTS, Mouraf Aboukassra, ainsi que l'ex-chef des renseignements généraux, Anas Katab, nommé ministre de l'Intérieur. Le président par intérim s'est exprimé tard dans la nuit au palais du peuple de Damas devant une poignée de journalistes et des personnalités syriennes venues de tous horizons. Car quelques semaines après les massacres survenus sur la côte contre la minorité alaouite, le président syrien s'est voulu inclusif. Il compte parmi ses 23 ministres un druze, un kurde, un alaouite et une chrétienne, une femme, Inka Bawat, ancienne opposante au régime de Bachar al-Assad et co-organisatrice de la conférence de dialogue national fin février. Autre nomination bien reçue parmi la société syrienne, celle de Raed al-Saleh, le chef des casques blancs, secouristes syriens qui ont longtemps œuvré dans les zones rebelles durant la guerre civile. Fait notable, il n'y aura dans ce gouvernement aucun premier ministre, cela avait déjà été fixé par la déclaration constitutionnelle début mars et renforce les pleins pouvoirs conférés à Ahmed al-Shara, président par intérim jusqu'aux prochaines élections prévues dans 5 ans. Manon Chaplin, Damas, RFI.
Le monsieur vaccin des États-Unis a été poussé à la démission et il n'a pas mâché ses mots en quittant la FDA, l'agence américaine des médicaments. Le docteur Peter Marks a tout simplement dit que l'agressivité du secrétaire à la santé, Robert Kennedy, était irresponsable et posait un danger au public. Les précisions de notre correspondante à New York, Karine Otten.
Le docteur Peter Marks n'a pas eu le choix. Soit il démissionnait, soit il était licencié, mais celui qui pilotait le département vaccin n'a pas quitté la FDA sans faire de vagues. Il a détaillé dans une lettre à la directrice de l'agence par intérim ses alertes sur un système qui s'approche de plus en plus du danger, selon lui. Il critique tout d'abord son désormais ancien patron, Robert Kennedy, qui, tout secrétaire à la santé qu'il soit devenu, n'a jamais caché son aversion pour les vaccins. Peter Marks accuse Robert Kennedy d'être irresponsable en minant la confiance dans les vaccins. Il rappelle qu'il a conseillé aux enfants non vaccinés au Texas de prendre de la vitamine A pour se protéger de l'épidémie de rougeole récemment et que sa tolérance envers les non vaccinés va faire revenir la maladie qui a tué l'an dernier encore 100 000 enfants non vaccinés en Afrique et en Asie. Le docteur Marks a assuré aussi avoir proposé, abordé le public américain avec plus de pédagogie pour plus de transparence, mais il a essuyé une fin de non-recevoir du ministère de la Santé. Karine Otten, New York, RFI.
Une nouvelle série de frappes aux drones en Ukraine ce matin, au moins 2 morts. Un hôpital militaire a été touché à Kharkiv. L'armée ukrainienne accuse la Russie d'avoir commis un crime de guerre et violé les normes du droit humanitaire international. Le jugement dans l'affaire des assistants parlementaires européens du RN doit tomber lundi en France. Si les juges suivaient les réquisitions et la condamnaient à une peine de 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, Marine Le Pen ne pourrait pas se présenter à la présidentielle de 2027. Dans l'attente de cette décision cruciale pour son avenir politique, la chef de file des députés, qui s'est confiée à la tribune dimanche, affiche sa sérénité. Valérie Gasse.
Depuis des jours, les spéculations vont bon train sur son état d'esprit, alors Marine Le Pen a décidé d'y couper court en répondant à la tribune dimanche. Et pas question pour elle de manifester de la nervosité. Elle déclare ainsi « Je lis ici et là que nous serions fébriles. Personnellement, je ne le suis pas ». La chef des députés RN à l'Assemblée nationale fait en sorte de montrer sa capacité à gérer la pression en attendant une décision qui peut pourtant mettre un terme à ses ambitions présidentielles. Et elle emploie à nouveau une formule choc. Les juges ont un droit de vie ou de mort sur notre mouvement, manière de dramatiser l'enjeu et de ramener la décision de justice sur le terrain politique. Mais sa conviction, c'est que les juges n'iront pas jusqu'à la condamner à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, c'est-à-dire immédiate même en cas d'appel. Marine Le Pen, qui avait accusé le coup lors des réquisitions et manifesté de la colère, semble avoir changé d'état d'esprit et affirme qu'elle n'a pas mis au point de stratégie pour réagir aux conséquences du jugement, comme pour repousser l'hypothèse qu'elle en aurait besoin.
La décision est donc attendue demain. Un petit mot de sport pour terminer avec du football et les résultats de Ligue 1 en France. Monaco, en s'imposant 2-1 face à Nice, a retardé le 13e titre de champion de France du PSG, impérial hier face à Saint-Etienne, 6-1. Il aurait pu être sacré champion de France en cas de match nul. Avec 71 points, le PSG compte 21 points d'avance sur Monaco et désormais 22 points sur Marseille. Vous êtes bien à l'écoute de RFI. Passez une excellente journée. Assure notre antenne et tout de suite, c'est Grand Reportage.